Alternatiba Mons Artoux, attentes, enjeux et défis attendus pour la COP21.
Alternatiba est un processus de mobilisation citoyenne en faveur du changement climatique. Dans plus de 60 villes d'Europe, des événements festifs ont été organisés ou sont en projet. Des centaines d'alternatives y sont présentées pour susciter des prises de conscience et pour faire pression sur les décideurs, notamment dans la perspective de la COP21. En fin d'année 2015, la France accueillera et présidera cette 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une échéance cruciale puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. C'est à Mons-Artoux que le collectif Alternatiba a choisi samedi dernier de mobiliser les citoyens sur différents types d'alternatives. Véronique Armand s'est approchée du quartier de l'énergie et a fait la rencontre avec Stéphane Poufari, Fondation d'énergie 2050. Cette association travaille sur la grande transition et se questionne de façon globale sur le développement durable, évitant ainsi les approches sectorielles. Le but, mutualiser différents projets et déterminer un bouquet de solutions afin de sortir de l'actuelle trajectoire qui peut sembler fatale. Vous entendrez le premier adjoint de la mairie de Mons-Artoux, un représentant d'Alternatiba et quelques jeunes participants. Mais tout de suite, Stéphane Poufari.
On veut montrer que les solutions sont réalistes, sont des possibles. Et cette espèce d'envie collective doit être demain porteuse de solidarité et d'une envie de travailler différemment et tout bêtement d'un mieux vivre partagé, parce que les modes de consommation et de production d'aujourd'hui ont montré leurs limites. Donc tous les enjeux d'Énergie 2050, c'est de questionner ces trajectoires et surtout d'être des témoins et des passeurs de relais entre des solutions.
Vous interveniez sur la COP21. Quelle a été l'évolution depuis Lima ?
Alors, depuis Lima et en fait depuis la fin de la période du processus du protocole de Kyoto, de la première période, très clairement, on est dans une zone délicate où on se retrouve confronté à une espèce d'inversion du processus onusien, c'est-à-dire avant les États négociaient des objectifs et ensuite les mettaient en œuvre avec des politiques et des mesures nationales et devaient mettre aussi en œuvre des mécanismes d'accompagnement de nos voisins du Sud, de nos pays dits en développement. Et aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, on est rentré sur un processus qui remonte, qui fait que tous les pays se sont engagés à construire ce qu'on en appelle les contributions prédéterminées au niveau national. Et l'addition de toutes ces contributions doit normalement faire que nos trajectoires vont être soudées 2 degrés. Donc cette idée-là est de dire tout le monde va additionner, mais ça pose d'autres problèmes. C'est qu'on s'est appuyé sur l'ensemble des pays, autant les pays en développement que les pays industrialisés, toujours dans l'esprit du principe de responsabilité partagée mais différenciée. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne trajectoire. On sait très bien que l'ensemble des pays n'ont pas mis des objectifs suffisamment ambitieux, et d'autant plus qu'on ne connaît pas la forme juridique de l'accord de Paris. Donc on est vraiment dans une espèce de grande transition de pensée au niveau des Nations Unies sur le changement climatique. Et tout ça fait que Paris doit trouver un bouquet de réponses. Et ce bouquet de réponses, on le sait, va être délicat, mais il y a une envie d'agir, une envie d'obtenir quelque chose. Même si l'accord est un peu mou, il y aura quelque chose qui va se passer à Paris, parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir un échec.
Quelle est votre vision sur les prochaines négociations à Paris ?
Énergie 2050 est très impliquée dedans, puisqu'on fait le guide des négociateurs, on fait un guide des citoyens, et nous-mêmes, on aura énormément d'événements, puisqu'on travaille sur ces sujets avec des États. On a accompagné 7 pays à faire leur communication nationale. Ma vision est qu'on va arriver à un consensus très mou. C'est-à-dire que politiquement, il va y avoir un accord. Maintenant, la vraie question, et qui risque d'être repoussée à la prochaine COP de Marrakech, la COP22, ça va être la COP de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura cet accord, on va se poser la vraie question, c'est comment on fait ? Et c'est quand même un danger, parce que de COP en COP, de conférence climat en conférence climat, on repousse l'échéance de la mise en œuvre. C'est-à-dire que là, l'accord de Paris, c'est sur 2020-2030. Les gens ont tendance à oublier, ils pensent que dès le lendemain de Paris, on travaille sur la mise en œuvre. Non, on va travailler sur un accord qui sera officiellement, juridiquement contraignant, ambitieux, réaliste, opposable, sous une forme juridique à définir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points de suspension pour 2020.
Et donc, c'est pas un peu long comme période ?
Ben c'est carrément très long. Et donc, il y a aussi dans l'accord de Paris, et on en parle beaucoup moins, c'est la période 2015-2020. On va rester sous une trajectoire de 2 degrés à partir et à l'horizon 2020-2030 et au-dessus. Ça n'a pas de sens si on continue sur des trajectoires où d'année en année, on est sur des records d'émissions. Donc, vous voyez que Paris est confronté à cette espèce de schizophrénie, un accord lointain et une réalité de mise en œuvre aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous verriez comme solution ?
Alors moi, ce que je verrais, c'est une solution de bon sens qui ferait qu'à un moment donné, on réaliserait qu'il y a quand même des opportunités de solutions réelles, que c'est pas un plaidoyer, je l'ai dit dans la conférence, nous sommes en faveur des témoignages des possibles. Et si on additionne les solutions, les opportunités déjà avérées, déjà montrées, les coûts-bénéfices de travailler à la fois sur l'adaptation qui aura des effets sur l'atténuation, de travailler sur des sociétés plus résilientes avec du mieux vivre et surtout un co-développement sud-nord, sud-sud, bah très clairement, on voit bien bien que l'équation est solvable. Sinon, on est confronté à ce que l'on voit déjà aujourd'hui, une lutte réelle des migrants. Alors là, ce n'est pas des migrants par rapport à des zones de conflit, même si beaucoup de ces conflits vont aussi venir de questions de lutte pour des ressources. Mais très clairement, on sait déjà qu'il y a plusieurs millions de migrants climatiques par an. Et le GIEC nous parle de centaines de millions de migrants climatiques parce que l'accès aux ressources va exacerber des problématiques déjà pour des pays en souffrance, va avoir de plus en plus des conséquences même pour nous, les pays du Nord. Donc de fait, soit on plaide pour un bon sens, soit on va être confronté à une réalité conflictuelle de mise en œuvre. Tout notre travail est de témoigner, de montrer que c'est faisable, mettre en œuvre des projets réalistes pour que demain, ben, on soit confronté à une évidence, ça marche versus ça marche pas.
On peut penser que la COP 21 est peu efficace, mais imaginons qu'elle disparaisse, qu'est-ce qui se passerait ?
C'est pas simplement la COP, enfin je vois bien votre question, c'est très important, mais pour vos auditeurs, c'est tout le processus onusien qui va être adossé à la COP, c'est-à-dire toute la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors très clairement, je pense que ce serait un drame. Pourquoi ? Alors, c'est que beaucoup de gens pensent que cet accord, parce qu'il est dur à mettre en œuvre et qu'il n'a pas marché déjà une fois, il n'a pas de sens. Ben non, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se souvienne qu'on négocie à 195 pays. Et chaque pays est schizophrène et à la fois magicien, porteur de bonne volonté, de bonnes nouvelles, et à la fois de schizophrénie, de contradictions, d'antagonisme, de lobby, de désinvolture, de mensonges, de tout ce que l'on peut imaginer. Et si vous mettez ces 195 pays, vous voyez bien que l'équation est insolvable. Mais si vous ne les mettez pas autour de la table, vous en parlez quand ? Le climat n'est pas en soi un problème, et je vais être volontairement très provocant. Le climat est en soi quelque chose qui exacerbe des problèmes. Donc quand on travaille sur le climat, on ne peut qu'à un moment donné se poser la question de comment je vais soigner le problème. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a été un peu comme si on était confronté à une gangrène globale, rapide, et qu'en fait, on continue à prendre un coton et à nettoyer la plaie en disant « ça va passer ». Mais non, le climat n'est pas en soi porteur de la solution, mais va nous permettre de nous questionner sur comment je réponds aux problèmes à l'origine des dérèglements. Et ces problèmes-là, ils vont devoir se traiter au nord et au sud, mais de manière conjuguée. On ne peut pas imaginer aujourd'hui continuer ce modèle, puisqu'on sait qu'on est sur des scénarios catastrophiques et que beaucoup de pays sont déjà confrontés à cette réalité.
Comment voyez-vous l'avenir ?
À titre personnel, je pense que l'avenir peut être différent. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, mon métier, l'expérience que j'en ai depuis des décennies et même que nous on voit sur le terrain et même dans les négociations, c'est une véritable tristesse parce qu'on a le sentiment d'avoir un bouquet d'opportunités et c'est vraiment un mot qui est cher à Énergie 2050, mais on appelle ça transformer les contraintes en opportunités d'agir. On voit qu'il y a un trésor d'opportunités et quand je dis trésor, ce n'est pas un petit trésor avec trois petites pièces, c'est vraiment des pépites partout. Et ces pépites-là, on voit qu'on est en train de les enfouir très profondément et d'être sur des schémas de développement qui ne fait qu'exacerber encore plus les problématiques. C'est presque un suicide imposé. Et je dis bien imposé, c'est-à-dire que nos bonnes volontés, je parle des gens qui ont décidé d'être des acteurs, nos bonnes volontés peuvent être anéanties par rapport à une inertie collective pour des mauvais prétextes. Et ces mauvais prétextes ne vont pas créer cette richesse partagée, vont créer que des zones de conflit qu'on a déjà aujourd'hui par rapport à l'inégalité des répartitions des richesses, des ressources, par rapport aux besoins de développement légitime. On ne peut pas continuer à imaginer qu'un Africain peut vivre avec 500 watts par an et nous être à 7000, 8000. Ça n'a pas de sens éthique, mais même au-delà de ça, de sens fonctionnel. Et bien évidemment, si on inverse juste 30 secondes les rôles, ben, on ne serait pas content et on chercherait à faire autre chose. Donc ce bon sens collectif pouvant apaiser l'humanité, on voit bien qu'on a des opportunités et qu'on est en train de le gâcher. Donc d'un côté, je suis écrasé par la bêtise collective qu'on met tous en œuvre. Et d'un autre côté, je sais que si tout le monde conjugue ce qu'on sait déjà faire, plus toutes ces innovations qui vont créer demain de l'emploi, de la richesse, du développement local, on est dans une solution gagnant-gagnant.
Je suis élu de la ville de Mansartou qui, comme beaucoup de monde le sait, est une ville qui essaye toujours de trouver des solutions qui ne sont pas forcément en vogue ou qui vont le devenir. Voilà un petit peu la raison en général, d'une façon générale, sur tous les aspects de l'écologie, de l'alimentation, ou aussi de la santé, de l'énergie, de beaucoup de sujets.
D'où est venue cette initiative dans la ville ?
C'est vraiment dans les racines de la ville. Depuis une quarantaine d'années, notre ex-maire Andreas Kéry avait vraiment été un écologiste avant l'heure, avant même qu'il existe des écologistes. Et il a toujours mis en avant l'éducation, la santé des enfants et toutes ces choses-là. Et finalement, ça ne se restreint pas à un domaine, mais tous les domaines de la commune sont concernés. Que ce soit l'urbanisme, où on essaye par exemple de faire des logements sociaux près du centre pour éviter que les gens se déplacent avec leur voiture. et tous les autres domaines, l'éducation, la cantine des élèves de l'école qui est pour les trois écoles qui sont des cantines bio déjà depuis 3 ans, une ferme agricole qui fournit les légumes de ces cantines à presque 100% aujourd'hui et donc localement, c'est-à-dire que la nourriture, au lieu de faire 3000 km pour arriver dans votre assiette, elle en fait moins de 3, ce qui est quand même bon pour la santé et pour la planète aussi, puisque les transports sont chers et coûteux pour la planète.
Tous les habitants sont engagés ?
Écoutez, si on en juge par les résultats récurrents des élections, on peut considérer qu'il y a en tout cas une forte adhésion. Dire que tous les habitants sont aussi engagés, peut-être pas. Mais si on prend par exemple les parents des élèves des écoles, un récent sondage a montré une satisfaction de 93%. Ça parle de soi-même.
Mélène d'Alternativa. Alternativa, c'est une initiative citoyenne pour montrer qu'on peut changer le système, pas le climat. C'est-à-dire que chacun, à notre niveau, on peut faire par des petits gestes de tous les jours, des petites actions pour influencer notre impact sur l'environnement. Des gestes qui ne sont pas compliqués, par exemple ne plus jeter son mégot de cigarette dans la rue mais le mettre dans une poubelle va déjà prévenir la pollution de 500 litres d'eau par mégot. Faire ses produits ménagers, simplement avec des produits naturels, vont nous réduire notre coût. Donc faire des économies et en plus l'impact c'est des produits naturels, du coup l'impact sur l'environnement est réduit. On pourrait donner encore beaucoup d'exemples de ce style-là, mais vraiment l'idée c'est que le citoyen peut s'approprier cette thématique, ne pas la laisser simplement aux entreprises ou aux politiques qui nous disent « le citoyen n'est pas intéressé ». Non, leur montrer que nous déjà à notre niveau, par des petits gestes, on peut faire des actions, on peut économiser aussi de l'argent parce que toutes les actions de préservation de l'environnement c'est aussi des économies. Donc c'est vraiment une notion de nous citoyens, nous pouvons faire des choses sans forcément modifier toute notre vie de tous les jours, mais simplement par des petits gestes. C'est une initiative européenne qui, à l'origine, est née à Bayonne il y a 2 ans et qui a très, très bien marché. Il y a eu plus de 12 000 personnes sur une journée à Bayonne et qui a beaucoup plu et du coup qui s'est répandue. L'idée, c'est vraiment de dire on est acteur de l'évolution de notre société et on peut faire changer les choses. Alternativa, ce n'est pas des stands, il y en a évidemment, mais surtout des ateliers où les gens vont apprendre à faire. Donc vous venez, vous participez, vous apprenez à faire des produits ménagers, vous apprenez à faire du lait végétal, vous apprenez à revoir un peu l'éducation. Il y a des ateliers, des débats, des conférences, mais le mot-clé c'est vraiment participatif. On participe, vous apportez ce que vous savez, vous partagez.
Un enseignement d'alternative.
Exactement, un enseignement d'alternative pour tous, à chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, et en même temps réduire l'impact de l'environnement.
Aujourd'hui, nous sommes à Montsartou, dans les Alpes-Maritimes. Pour quelles raisons avez-vous choisi cette ville ?
On a contacté beaucoup de villes dans le département. Finalement, c'est la seule qui nous a vraiment invités les bras ouverts. On a essayé de négocier avec plusieurs mairies et on s'est trouvé soit un refus, soit des gens qui nous ont fait négocier et nous demander quelque chose qu'on n'avait pas les moyens, parce que c'est une initiative citoyenne qui est gratuite. Donc du coup, on ne peut pas nous demander de payer un emplacement à des tarifs mirobolants, alors que nous, le but, c'est justement que ce soit gratuit pour que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse s'investir. Et donc du coup, Montsartou, bon, qui est une ville déjà très engagée sur la thématique, eux savaient ce que c'était, étaient au courant, et on dit ça, on le veut chez nous, parce que ça représente notre ville, notre culture. C'est notre première action dans le département. Dans le 06, il y a eu des petits Alternativa avant à La Roya et à Villars-sur-Var, mais c'est le gros Alternativa des Alpes-Maritimes. En PACA, il y en a eu aussi à Marseille. Vraiment, dans notre département, c'est le premier imposant. Là, je pense qu'il y a énormément de monde, donc je vais dire peut-être qu'il y aura 5000 personnes dans la journée. Je pense peut-être même plus, vu que les stands sont pleins, les gens restent et tout le monde est ravi.
Qu'est-ce qui vous fait courir personnellement ?
Ce qui me motive, ce qui me fait courir, c'est juste que j'aime la terre sur laquelle je vis, j'aime profiter de la nature et je suis attristée quand je vois que par des incivilités ou simplement par de la méconnaissance, on est en train de la détruire, de l'abîmer et que pour moi, pour les générations futures, ça va être quelque chose de complètement différent et j'ai envie qu'on puisse continuer, nous humains, à en profiter, nous humains mais aussi nous les animaux parce que notre impact, finalement, on n'a jamais autant menacé les espèces depuis la chute de la météorite avec les dinosaures. L'homme est en train de créer, en exagérant un petit peu, la même chose qu'une météorite. On a un nombre d'espèces qui disparaît chaque année qui est phénoménal, qui n'a jamais été atteint depuis des centaines de milliers d'années. Et du coup, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, à notre niveau, sur Terre et sur Mer, modifier ça par des petits gestes.
Pourquoi je suis venue ? Parce que je pense que c'est une prise de conscience importante qu'on doit faire à l'heure actuelle, à niveau environnemental, alimentaire, économique. Voilà, on vient prendre des renseignements, on vient s'informer encore plus, on rencontre des gens qui sont dans la même optique que ça.
Nous, on est une troupe. On est venu avec le TNN, Théâtre National de Nice.
Quelles sont les raisons de votre motivation par rapport à l'environnement ?
La raison, c'est d'être en résonance avec notre éthique, avec notre désir de se rendre utile, on va dire, à notre société, d'agir avec raison. Après, ça englobe dans les relations sociales, les relations humaines. C'est tout un cycle quoi, dans lequel on a envie de s'intégrer. Quoi. Et en tant qu'acteur aussi, on est comédien et acteur social aussi.
On est venu surtout pour s'instruire, enfin pour apprendre. Et parce que toutes les deux, on mange bio et on aimerait devenir végétarienne. Donc voilà, on s'est dit que ce serait l'endroit idéal pour ça.
Tout le monde est persuadé donc, que la viande est primordiale à l'être humain, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup de raisons qui le prouvent. Et on est venu ici justement pour le savoir, quoi exactement, quelles sont ces raisons.
La protection des animaux aussi, non ?
Aussi. Mais aussi, surtout même, mais bon, ça c'est évident. Tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde aime les animaux, et pourtant tout le monde continue à en manger.
Si nous, les jeunes, donc de 20-30 ans, on n'est pas un petit peu bénévole sur cet événement-là, il faut montrer qu'on veut faire changer les choses, mettre son gravillon à l'édifice pour que tout le monde soit dans une émulation, apprendre à vivre autrement, parce que c'est un peu le message d'Alternativa, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on change nos modes de vie et nos modes de pensée pour que le monde, en tout cas, soit le meilleur possible pour nos enfants.
Quel âge avez-vous ?
11 ans.
11 ans ? Et ça vous intéresse, le bio ?
Oui.
Pour quelle raison ?
Parce que j'aime pas manger des choses mauvaises pour moi. J'ai envie de grandir bien.
Tout simplement parce que je commence à m'intéresser à l'écologie, que je commence à essayer de m'initier aussi et à changer mes habitudes quotidiennes. Et adopter du coup des attitudes beaucoup plus citoyennes qui jusque-là en fait m'étaient totalement étrangères.
Qu'est-ce que vous a fait prendre conscience ?
En fait, c'est réellement mon cercle familial qui s'y intéresse de près, qui font plein de formations sur la permaculture, etc., qui jusque-là en fait me passaient totalement au-dessus. Et donc ça fait pas si longtemps que ça, hein. Ça doit faire, j'ai 28 ans, bientôt, et ça doit faire seulement 2 ans que je commence à m'y intéresser tout doucement. Donc ça commence par des petites choses basiques, le tri sélectif. Et puis au fur et à mesure, j'essaye d'être plus active dans ce que je peux faire.